L'attitude que nous voulons continuer ce culte, une attitude où nous laissons Dieu régner, où nous courbons le genou devant lui. Aujourd'hui, le groupe Meta est avec nous. Bienvenue Meta. Je vais continuer la série sur le Saint-Esprit qui a pour thème « Marcher par l'Esprit avec puissance ». Et je vais faire pour que non seulement les enfants comprennent, mais aussi que les adultes comprennent. Quelqu'un m'a dit une fois « Quand tu parles aux enfants, je comprends tout ». Alors je vais essayer de parler aux enfants pour qu'on puisse tout comprendre. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne. C'est d'ailleurs la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Et au travers de quelques textes bibliques relativement bien connus, nous allons aujourd'hui comprendre quelle réalité il existe entre le Saint-Esprit et nous. En fait, quelle communion peut-il exister entre nous et le Saint-Esprit ? Pour que nous puissions bien comprendre ce qu'il désire faire et vivre en nous, et que chacun de nous puisse être prêt à entrer dans son service. Et je vais tout vous dire, j'ai 4 points pour que vous puissiez bien synthétiser ce temps. Je vous propose d'ouvrir la Bible déjà dans le livre de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, et nous lirons les versets 19 et 20, avec comme premier thème, « Le Saint-Esprit habite en moi ». En Corinthiens 6, versets 19 et 20, voici ce qu'il est dit. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix ? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. » Bien, on va essayer de décortiquer un petit peu ce premier texte. Et si nous le lisons bien, nous comprenons qu'à notre conversion, nous avons reçu le Saint-Esprit qui désormais habite en nous. Dimanche passé, nous avons appris et compris qu'en plus, le Saint-Esprit avait décidé d'être éternellement avec nous. Et le pasteur Willio nous avait bien dit que c'était le vrai mot « éternellement ». Et on trouve ceci dans l'épître, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. Par conséquent, si j'aimerais un petit peu mieux comprendre ce verset 19 et ce verset 20, eh bien, il nous est dit que notre corps physique ne nous appartient plus, mais qu'il appartient à Dieu. Et cela parce qu'un jour, nous nous sommes convertis et nous avons décidé de donner notre corps, non pas à la science, c'est aussi possible, mais à Dieu. Et puis, il est dit aussi, vous ne vous appartenez pas à vous-même, c'est-à-dire que notre vie ne nous appartient plus non plus. Donc, déjà notre corps, ensuite notre vie. Parce que notre vie appartient à Dieu, nous lui avons donné notre vie à notre conversion, et cela, j'espère que nous ne le regrettons pas. Et puis à la fin de ce verset 20, il nous est dit, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc notre esprit ne nous appartient plus non plus, mais il appartient à Dieu, et cela par la même réalité de ce qu'un jour nous avons rencontré Dieu, et que nous nous sommes convertis. Finalement, si nous faisons les comptes, il ne nous reste plus grand-chose à nous. Plus grand-chose. Donc, puisqu'il ne me reste plus rien, tout ce que je lui ai donné, c'est-à-dire tout, eh bien, je veux lui mettre à sa disposition. Et nous allons apprendre à obéir à ce Dieu qui est vraiment celui à qui nous avons tout donné. Mais c'est assez étrange pour moi de prononcer ces paroles, apprendre à obéir au Saint-Esprit. comme si ce n'était pas inné, comme si on ne le savait pas. Ben, quand même, parce qu'en fait, il s'agit vraiment d'un apprentissage. Je dois apprendre à écouter le Saint-Esprit comme je dois apprendre à lui obéir. Avant, c'était assez facile. On n'avait qu'un seul maître, et ce maître, c'était nous-mêmes. C'était assez facile. On faisait tout ce qu'on avait envie de faire, on décidait et on le faisait. Mais depuis notre conversion, les choses se sont un petit peu compliquées. Parce que nous avons décidé d'appartenir à Dieu, que Dieu a désiré de faire sa demeure en nous pour nous permettre d'avoir une relation avec lui, telle que notre obéissance ne va pas être le fruit d'une relation dominant-dominée, mais d'une relation d'amour. J'aime Dieu et je lui obéis. Ou j'obéis à Dieu parce que je l'aime. Et dans cette perspective, on comprend mieux un petit peu ce que Galates 5 nous dit, quand il nous dit ceci, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Ah ben là, ça va plus. Comme si je ne peux plus faire ce que je veux. Non mais, Seigneur, est-ce que tu ne pousses pas un petit peu le bouchon un peu trop loin? Je ne peux vraiment pas faire ce que j'ai envie. Eh bien non. Je suis désolé pour vous. La lucidité ne permet pas de vivre l'instant innocent. Si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, vous auriez pu continuer à le croire, mais malheureusement, on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce que l'esprit que Dieu a mis en nous va nous montrer quels sont ses désirs, ses souhaits, puis quand ils sont opposés aux nôtres, eh bien, il y a un choix à faire, et ce choix, il est vite fait si on aime Dieu. Nous avons donc quelqu'un, le Saint-Esprit, qui habite en nous, qui va nous aider à trier nos choix, pour que nous fassions les bons choix, chaque jour, chaque instant, quels que soient les chemins qui s'ouvrent à nous. Le Saint-Esprit qui habite en nous nous aide à faire les bons choix. Et tout naturellement, nous allons nous mettre à sa disposition. Tout naturellement, nous allons faire ce qu'il nous propose de faire parce que nous l'aimons. Oui, vraiment, le Saint-Esprit habite en moi et c'est lui le patron. Et de 1. Au deuxième maintenant. Actes 1:8 nous dit ceci, et avant de le lire, j'aimerais dire le deuxième partie, c'est « Le Saint-Esprit me rend apte au service. » C'est presque un ordre de marche militaire. On a passé devant le médecin militaire et on est déclaré apte au service. C'est ce qui s'est passé souvent quand on a fait le service militaire. Là, c'est le Saint-Esprit qui nous rend apte au service et on lit dans Actes 1:8 ces paroles. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais m'arrêter non pas à la puissance, non pas au Saint-Esprit, mais ni même aux témoins, mais j'aimerais m'arrêter aux deux verbes qui sont présents dans ce texte. Vous recevrez. Vous serez. C'est assez simple. Très simple. Vous recevez, vous allez faire. Toute personne que Dieu remplit de son esprit peut faire, peut être. Quelque part, toute personne que Dieu remplit de son esprit est apte à témoigner. Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. C'est comme ça. Je vais manger quelque chose que j'aime bien, je vais me régaler. C'est aussi simple que ça. je reçois une puissance, je deviens témoin. La Bible dit vraiment, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, non pas pour votre propre usage personnel, mais comme une réalité où Dieu veut nous utiliser pour être son prolongement là où nous trouvons et là où nous sommes, c'est-à-dire dans notre Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, Dieu déclare ceci, parce qu'il nous revêt de la puissance d'en haut, ce que la Bible et nous aussi appelons le baptême du Saint-Esprit, Dieu va certifier que nous sommes ses témoins et son Esprit Saint en nous est l'assurance de nouvelles capacités qu'on n'avait pas avant et qu'on a désormais reçues, cette démonstration de puissance que Dieu désire nous donner, eh bien c'est aussi pour nous, pour chacun. Alors, quand on parle de recevoir le Saint-Esprit, on est toujours très heureux. Quand on est en phase de recevoir un don, on est toujours très heureux. Quand on est en mesure d'exercer un don, on est très heureux. Quand les autres discernent un don en nous, on est aussi très heureux. Mais quand on parle de témoigner, là, parfois, notre sourire se fige. Et puis on dit, mais Seigneur, j'ai pas trop d'expérience dans le domaine. Ou on dit, Seigneur, attends, moi je suis pas vraiment formé pour parler aux gens. Ou si, bah, je n'ai pas tellement de qualifications requises pour témoigner, je suis un petit peu gêné, je suis maladroit, je suis pas bien, quoi. Déverse-moi ton don, déverse-moi ton esprit, ça oui, mais témoigner, demande à quelqu'un d'autre. Puis Dieu me dit, mais non, si je te donne ton Saint-Esprit, c'est pour être témoin. Vous recevrez, vous serez. Si tu ne veux pas être, ne demande pas à recevoir. Et ainsi, le Saint-Esprit en nous va nous rendre capables d'accomplir la tâche pour laquelle il nous appelle. On pourrait dire, mais quelle est cette tâche? On l'a bien compris, c'est être témoin là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous évoluons envers toutes les personnes qui vont se trouver à proximité. Ça, c'est notre Jérusalem. Une fois que ça sera prêt, on pourrait aller en Judée, un peu plus loin, élargir le cercle. Après, on pourrait aller en Samarie, puis on pourrait aller jusque tout au bout. Mais c'est toujours facile d'être prêt à servir Dieu en Chine ou au Japon, ou à Tombouctou, ou au sud de l'Amérique centrale, puis de ne pas être prêt à être témoin à son voisin, à un membre de sa famille, à un collègue. Mais loin, 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 oui, là on va être témoin, là on a la foi. Mais plus ça se rapproche, moins on a la foi. Je ne comprends pas, c'est un mystère qu'il faudra m'apprendre, me faire comprendre. Alors, c'est vrai que le Saint-Esprit rend possible notre témoignage, il le rend certain. Éphésiens 2, le verset 10, dit que « On a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour des œuvres bonnes. » Et puis j'aime bien la suite, que Dieu a préparé d'avance pour chacun de nous afin que nous les pratiquions. Puis le texte grec ne dit pas le pratiquer, il dit marcher. C'est intéressant parce que ça entre vraiment dans notre thème, marcher avec puissance. Donc le Saint-Esprit nous donne la possibilité d'être témoin dans des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous, pour que nous puissions y marcher, pour que nous puissions évoluer dans ce sens. Ainsi, il fait tout, finalement. Il a tout, mais il fait tout, il me demande juste d'ouvrir la bouche et de témoigner. Donc le Saint-Esprit me rend vraiment apte au service, le Saint-Esprit te rend vraiment apte au service. Si tu le doutais aujourd'hui, eh bien voici, c'est la vérité, tu es apte. Et puis un sceau qui descend sur ta vie, apte au service. Ensuite, passons au troisième point, le Saint-Esprit me donne autorité, et puis ça c'est le mieux que je trouvais, enfin personnellement, c'est celui qui me fortifie le plus. J'aimerais lire avec vous 2 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Et voici quelques mots quelques mis ensemble, mais qui ont une puissance et quelque chose qui m'étonne. Il est dit ceci, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Moi, je trouve extraordinaire ce passage. Alors, on va un petit peu le voir ensemble. Ce passage ne va pas se référer uniquement aux leaders de la ville de Corinthe ou de l'église de Corinthe, ni même à chacun de ses membres, mais elle va s'adresser à chacun de nous, à chaque chrétien. Dieu t'a rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Dieu veut nous dire aussi aujourd'hui que par son esprit, il nous élève au rang de ministre. Je l'avais oublié. J'oublie plein de choses avec Dieu, mais ça, j'avais oublié. Et c'est vraiment une promotion. Parce que des fois, on se plaint, on dit « Oh, je ne vaux rien, je suis quoi dans l'œuvre de Dieu ?» Il y a des gens qui prêchent, qui témoignent, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui jouent des instruments, qui dansent, il y a des gens qui signent. Moi, je ne fais rien. Dieu te dit aujourd'hui, mon ami, mon frère, ma soeur, tu es ministre. Quelle promotion! Puis non seulement il nous rend capable de l'être, mais de le rester. Pensez, vous êtes chacun, chacune, ministre à vie. Moi, je trouve que c'est beau. En Suisse, on n'a pas vraiment des ministres comme en France. Mais on pourrait comparer en Suisse les ministres à nos 7 sages, les conseillers fédéraux qui ont à charge un département particulier. Ainsi, en voici un qui est ministre des Finances, un autre ministre de la Défense, un troisième ministre de l'Intérieur, un quatrième ministre des Affaires étrangères, etc. Soit des postes importants pour l'avenir de notre pays. Ça, c'est la Suisse. Mais si je m'en confère à l'Ancien Testament, il est dit finalement que les sacrificateurs juifs étaient, eux, ministres de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire ministres de la loi, ministres de la lettre, qui ne pouvaient conduire qu'à la mort, parce que la loi révélait à l'homme qu'il était incapable d'être sauvé. Mais nous, dans la nouvelle alliance, on a le privilège, et je vais le dire en premier, d'être ministre de l'Esprit. Imaginez, je suis ministre de l'Esprit. C'est le meilleur département possible, à mon avis. J'aurais pas aimé être ministre des Finances dans le royaume de Dieu. Non, c'est un ni ministre de la Défense, il y aurait 3 à faire. Le ministre des Affaires étrangères, encore moins, mais ministre de l'Esprit. Imaginez que vous êtes ministre de l'Esprit dans le royaume de Dieu et que vous le représentez, ce Dieu puissant, dans le monde ici-bas, sur la terre. Vous êtes ministre de l'Esprit. S'il y a une seule chose que vous pouvez garder en quittant ces lieux en fonction de ma prédication, c'est peut-être ceci. Dieu veut nous rendre notre dignité qu'on avait perdue par le péché. Il nous élève non seulement au rang de fils et de filles de Dieu, mais de ministres, c'est-à-dire nous représentant qui il est sur cette terre. Et en ce sens, nous sommes ministres de l'Esprit, un Esprit qui donne la vie, un Esprit qui régénère, un Esprit qui ressuscite, un Esprit qui rend fort, qui donne sa force, qui donne son autorité, sa puissance, ses dons. Ministre de l'Esprit, rien moins que ça. Et en nous faisant ministre de l'Esprit, Dieu veut nous dire qu'il nous donne vraiment autorité, l'autorité de son Esprit dans nos vies. On n'est pas des simples marionnettes dans l'histoire du monde. On est les ministres de Dieu. On est des gens qui pouvons faire changer l'histoire de ce monde parce qu'on est chrétien, parce qu'on est sauvé et parce qu'on est apte à témoigner. Oui, vraiment, le Saint-Esprit nous donne d'être de véritables ministres de l'Esprit. Et enfin, le quatrième point, le Saint-Esprit me donne de l'assurance. Et nous trouvons ceci dans le livre des Actes, au verset 31, après que quelques apôtres ont vécu bien des tourments, ils ont mis en prison, ils ont été frappés, ils ont été relâchés. Et puis, voici ce qu'il nous est dit au verset 31 de Actes 4. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. » Un deuxième texte qu'on pourrait lire en parallèle, Romains 8, le verset 15. Romains 8, 15. Qui va dans cette même direction, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc dans le premier verset, nous avons vu qu'ils annonçaient la parole de Dieu, donc ils étaient témoins, mais pas des témoins timorés, des témoins qui parlaient avec assurance. Et dans le deuxième verset, nous voyons que les disciples n'étaient plus du tout dans la crainte, mais qu'ils pouvaient témoigner ouvertement et clairement leur foi. Qui n'a pas besoin d'assurance? On en a besoin. Pas des assurances pour bien assurer sa voiture ou sa maison, ou sa vie, qui appartient à Dieu. Mais de l'assurance pour pouvoir témoigner. Il est bon de reconnaître humblement que pour les affaires de Dieu, on est quand même un petit peu tous timides, gênés des fois de notre témoignage, parce que peur d'être rejeté, appréhendant peut-être les moqueries, voire l'incompréhension, ou alors face à des questions dérangeantes, on ne sait plus quoi dire, plus quoi répondre, puis on a le bec fermé, on ne sait plus quoi. « Seigneur, je ne veux quand même pas avoir le bec fermé devant quelqu'un qui se pose des questions. » La bonne nouvelle de ce verset, c'est quand le Saint-Esprit vous remplit, nous remplit, nous sommes remplis d'assurance. Et j'aime beaucoup, on n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous murmurons. Nous susurrons « Abba, Père ». Non, le texte biblique dit « par lequel nous crions ». Alors, je ne vais pas faire l'exercice, mais il y a une véritable assurance de la personne qui crie les choses. Quand on entend les supporters d'équipes de football crier le nom de leur équipe, crier le nom du gardien ou d'un joueur, ils le font avec assurance. Ce n'est pas timide. Ils font de tout leur cœur, de toute leur force, de tout ce qu'ils peuvent. Eh bien, on peut crier cette relation filiale qu'on a avec Dieu, « Abba, Père ». Quelle assurance! Mais est-ce que c'est vraiment possible d'avoir l'assurance quand on témoigne? Je vais peut-être prendre une situation extrême, mais possible. Imaginons que la persécution contre les chrétiens sévit en Suisse. Et particulièrement à Yverdon. Et qu'il y a une sorte de chasse aux chrétiens à Yverdon, où tous les chrétiens sont mis en prison, sont... Qui serait encore chrétien ? Voilà que vos voisins vous dénoncent à la police. Les voisins à qui vous avez témoigné, à qui vous aviez partagé votre repas, partagé votre foi, ils vous dénoncent à la police. Et puis vous êtes arrêté, frappé, insulté, mis en prison. Ne croyez pas que c'est extraordinaire. Ça se passe malheureusement tous les jours dans le monde. Tous les jours. Et puis vous êtes en prison en attendant qu'un tribunal antichrétien, bien sûr, va vous juger. Et puis on va vous donner la parole dans ce même tribunal. Puis vous allez donc parler. Qu'est-ce que vous allez dire ? C'est pas moi, mais il ne faut pas croire. C'était gentil, je vous ferai un repas, mais c'était de bon cœur. Vous allez faire quoi ? Vous allez dire quoi ? Comment est-ce que vous allez argumenter votre foi ? Eh bien, Jésus lui-même nous donne la réponse, puisqu'il nous dira ceci, Jésus lui-même nous dira ceci, « Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Quelque part, Dieu a tout prévu. En mettant son Esprit en nous, il a prévu n'importe quelle situation de témoignage dans notre vie. Que ce soit un témoignage extrême ou alors comment avec son voisin, avec sa voisine. Est-ce que nous sommes conscients que, alors que nous sommes faibles, alors que nous avons peur, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit d'assurance pour que nous puissions témoigner. Ainsi donc, même dans cette circonstance, je n'ai pas à m'inquiéter. Mais tout n'est pas automatique. Ce serait trop beau, hein. Si j'arrive devant quelqu'un et puis pouf, voilà, j'ai rien à dire, puis c'est le Saint-Esprit qui parle. Ça ne se passe pas comme ça. On ne presse pas sur un bouton puis on met le Saint-Esprit en marche. N'oublions pas que c'est lui le roi, c'est lui le Seigneur. Non, tout n'est pas automatique. Il faut pour cela que je cultive ma relation avec le Saint-Esprit. Il faut que je passe du temps avec lui. Il faut que je m'arrête, que je le reconnaisse comme Dieu dans ma vie. Il faut que ma vie, mon corps, soit vraiment le temple du Saint-Esprit et que je lui laisse toute la place. Mais je lui laisse tellement peu de place que quand je suis confronté à des témoignages particulièrement violents, je ne lui ai même pas laissé la place pour qu'il puisse s'exprimer au travers de ma vie. Ainsi donc, pour marcher avec puissance, Dieu a tout prévu, mais la balle est de mon côté. C'est beau d'être rempli de force, c'est fantastique d'être rempli de son esprit. Et en ce sens, nous sommes pleins de Dieu, aptes au service, remplis d'autorité, débordants d'assurance. On pourrait se dire, mais tous ces cadeaux, Seigneur, c'est Noël avant l'heure. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter et puis se dire, tiens, quelle place je laisse au Saint-Esprit dans ma vie ? Alors, on va balayer ces réponses toutes faites en disant toute la place, parce que ce n'est pas vrai. Quelle place je laisse au Saint-Esprit dans ma vie ? Est-ce que le Saint-Esprit qui habite en moi est celui qui décide, est celui qui commande, est celui qui me donne l'impulsion ? Est-ce que je suis le temple du Saint-Esprit où il aime demeurer ? Est-ce que je me rends compte que je suis témoin et qu'un témoin, ben ça témoigne pour son royaume ? Est-ce que je me rends compte que je suis devenu ministre de cet esprit et que je le représente sur cette terre ? Est-ce que j'ai de l'assurance en sachant toutes ces choses ou est-ce que je veux continuer à me cacher derrière ma crainte ? Ce matin, faisons le bilan dans nos vies, vraiment. Parce que ça ne sert à rien de continuer si on le disqualifie d'office. Est-ce que Dieu est ce Seigneur de ma vie? Est-ce que le Saint-Esprit a l'autorité dans ma vie pour diriger ma vie? Et puis, je vous propose de courber la tête, puis de réfléchir dans le secret de votre cœur. Et puis après, de relever la tête en disant, voilà, j'ai fait un pas avec toi, Saint-Esprit. J'ai fait un pas avec toi, pas 15, un pas. Et je m'approche de toi. Je retrouve cette relation brisée, cette relation oubliée, cette relation négligée, cette relation fantôme que j'ai avec toi. Et je veux marcher avec puissance. Mais pour ça, je ne veux pas courir et brûler les étapes. Je veux me retrouver avec toi. Je vous propose de le faire. Seigneur, alors que nous sommes en silence, ce n'est pas la honte qui nous étreint, c'est l'espoir. C'est l'espoir d'un renouveau. C'est l'espoir de recommencer avec toi. Et tu nous tends les bras. Saint-Esprit, nous voulons faire le point avec toi pour repartir avec toi. Pour te dire, mais c'est toi, celui qui décide dans ma vie. C'est toi qui m'ouvre des perspectives nouvelles, des horizons que je ne connaissais pas. Aide-moi à t'aimer, apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à retrouver cette relation perdue, oubliée, occasionnelle. Je te demande pardon et je te demande que, aujourd'hui, même pendant que je vais prendre la scène, tu puisses restaurer cette relation, peut-être pas brisée, mais morcelée. Je t'aime, Jésus, et mon désir, c'est de marcher avec toi. Laissons le Saint-Esprit nous parler. Laissons-le faire une œuvre en profondeur dans nos vies. Tu es ma gloire, Seigneur, tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Et tu me fais retrouver cette position que tu veux que j'aie. Une relation privilégiée avec toi, Saint-Esprit. Une relation d'amour. Une relation de confiance. Une relation où tu me conduis dans de verts pâturages. Amen.